Troisième temps de notre semaine consacrée à l'histoire des indépendantismes. Ce mercredi, pour l'émission d'archives de la semaine, nous nous intéresserons à la fabrique de l'identité catalane. Donner une date à la naissance de l'identité catalane, est-ce que c'est du côté du comté de Barcelone médiévale ou plutôt du 19e siècle et de l'industrialisation de Barcelone et de sa région? Stéphane Michonneau, professeur d'histoire à Lille 3, a consacré sa thèse à cette construction mémorielle et historique au 19e et au début du 20e siècle, montrant que le catalanisme n'a pas toujours été un indépendantisme. Il sera avec nous ce matin, ainsi que Nicolas Berjouan, qui est maître de conférence à l'université de Perpignan et qui sera en duplex depuis les studios de Radio France à Perpignan. Il s'est quant à lui interrogé dans sa thèse sur une terre catalane particulière, le Roussillon. Tous deux, aidés d'archives sonores et de textes qui seront lus par Daniel Königsberg, nous expliqueront comment une ou des identités catalanes se sont développées tout au long des 19e et 20e siècles. Bonjour à vous, Cédric Attard.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous avez préparé toute cette semaine sur les indépendantismes, et en particulier le documentaire que nous avons diffusé hier autour de la figure de l'indépendantiste guadeloupéen, Luc Reynette. Vous pouvez bien évidemment le réécouter sur le site internet de France Culture, ainsi que l'émission de lundi avec Alban Massard racontant la longue histoire de l'indépendantisme néo-calédonien. Bonjour à vous, Daniel Königsberg. Vous êtes avec nous pour lire les textes ce matin. Et nous sommes également avec Nicolas Berjouan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en duplex depuis les studios de Perpignan. Vous êtes maître de conférence à l'université de Perpignan et vous êtes auteur d'une thèse publiée chez... On dit Trabucaïr ou on dit Trabucaïr ?
Le Trabucaïr.
Trabucaïr,
c'est ça ? C'est une maison d'édition, oui.
Voilà, l'identité du Roussillon, penser un pays catalan à l'âge des nations. Et bonjour à vous, Stéphane Michonneau.
Bonjour.
Votre thèse a été publiée donc il y a maintenant 6 ou 7 ans aux presses universitaires de Rennes sous le titre « Barcelone, mémoire et identité 1830-1930 ». Ça veut donc dire qu'il faut plonger au cœur du 19e siècle pour s'imaginer ce début de l'identité catalane telle qu'elle s'est développée au 19e et 20e. C'est quoi? C'est les années 1830-1850 pour commencer?
Oui, voilà, exactement. C'est à cette époque-là que l'ensemble du passé de la Catalogne est relu à la lumière de la construction nationale.
Et cet ensemble du passé de la Catalogne, on le fait remonter à quand pour pouvoir imaginer qu'il y aurait une Catalogne historique, une Catalogne de tout temps, une Catalogne éternelle qu'on revivifierait au XIXe siècle?
De manière assez classique, et comme en France à la même époque, c'est évidemment l'époque médiévale qui sert de point de référence et comme point de départ de supposée naissance de la nation catalane.
Et cette époque médiévale, elle est longue. On va chercher du côté du 9e, 10e siècle, des invasions donc arabes dans la péninsule ibérique, plus tard d'un comté de Barcelone du 10e, 11e siècle. Qu'est-ce qu'on va chercher comme référence pour s'imaginer le début de cette identité catalane?
Oui, c'est effectivement la construction du féodalisme au tournant des 10e, 11e siècle qui sert de point de référence avec la naissance du comté de Barcelone. Effectivement, la présence des Arabes n'est pas si déterminante dans ce roman national qui est construit au XIXe siècle.
Vous dites roman national comme on dit roman national pour les grandes nations européennes de l'époque, et pourtant c'est un territoire relativement restreint que celui de cette Catalogne, même si effectivement les Catalans le considèrent comme très important à la hauteur d'autres territoires européens. C'est un roman national qui s'inscrit dans un roman étatique qui serait le roman des couronnes d'Espagne, de la couronne d'Espagne, et qui a une particularité dans cette relation entre cette identité qui se construit et la construction d'un État très fort, qui est celui de l'État espagnol, au siècle d'or en particulier.
Oui, effectivement, peut-être la singularité de l'identité catalane au XIXe siècle, c'est qu'elle s'affirme dans le contexte de la construction de l'État national espagnol. et que...
Dans le contexte, pas à l'écart de ce contexte.
Non, à l'intérieur. Ce n'est pas un indépendantisme, c'est un, c'est la réclamation et l'affirmation d'une forte identité régionale, mais insérée à l'intérieur de l'identité espagnole. Et d'une certaine manière, elle est assez... c'est ce qu'un historien qui s'appelle Josep Maria Fradera a appelé le double patriotisme. Ce n'est pas un phénomène propre à l'Espagne, on trouve ça également en France, l'attachement à la petite patrie et puis l'attachement à la grande nation. Mais ce qui est particulier dans le cas de la Catalogne et peut-être aussi du Pays-Bas, c'est que les Catalans sont convaincus d'incarner vraiment l'identité espagnole la plus pure parce que ils défendent...
C'est étrange ça.
Oui, c'est étrange, effectivement.
Enfin, vu d'aujourd'hui, c'est étrange.
Oui, c'est très étrange. C'est presque une forme d'espagnolité singulière puisque ils considèrent qu'ils défendent plus que tout autre le principe et la défense du principe de la liberté dans l'histoire de l'Espagne, un principe de la liberté qui a été dénaturé par la croissance de l'État central et que seuls eux incarnent désormais au XIXe siècle.
Séverine Attard.
Et donc il y a aussi une mobilisation culturelle, peut-être Nicolas Berjoan, parce que voilà, on parle de cette identité, entité politique, enfin en tous les cas revendication qui va devenir politique, mais avant de devenir politique justement, elle est peut-être d'abord culturelle aussi, c'est-à-dire il y a mobilisation d'historiens, d'intellectuels, de littéraires, de poètes. Je ne sais pas, peut-être Nicolas Berjoan.
Reprenant votre question et rebondissant sur ce qu'a dit Stéphane Michonneau, c'est tout à fait juste. Hein, ce roman national, il se construit, notamment on le voit dans les œuvres de Balaguer, comme un roman indexé au roman national espagnol. La Catalogne passant pour le territoire qui a le plus, dans son histoire, défendu la liberté à un moment où l'Espagne veut se constituer comme un État libéral, moderne. C'est pas tellement une particularité au sein des petites nations d'Europe. On retrouverait ça aussi dans l'écriture de l'histoire occitane, par exemple, où on réinvente le passé médiéval occitan comme un passé de liberté qui doit inspirer la France du XIXe siècle et qui doit donner à l'Occitanie une place particulière dans cette France. Toujours cette défense de la liberté générique, j'ai envie de dire, s'accompagne quand même d'un regret par rapport aux institutions forales qui ont été perdues au XVIIIe siècle. Il y a toujours chez ces populations...
Qu'est-ce que vous appelez institution forale pour pouvoir expliquer à nos auditeurs, c'est-à-dire ces institutions qui remontent justement à ce Moyen-Âge rêvé par les Catalans du XIXe siècle et à ces libertés supposées perdues sous la tutelle de l'État espagnol, c'est cela ?
Oui, enfin, effectivement perdues au XVIIIe siècle par les décrets de Nova Planta, ensuite après la guerre de succession d'Espagne,
1716.
Qui ont aboli ces institutions et les droits et un certain nombre de droits particuliers de la Catalogne dans la couronne ibérique. Il y a donc toujours cette mémoire-là d'institutions particulières qui sont revendiquées en même temps que la Catalogne se présente comme le flambeau de la liberté dans l'Espagne du XIXe siècle. Et effectivement, pour finir, oui, ça s'accompagne d'une défense aussi de la culture locale et singulièrement de la langue locale qui n'est pas propre au XIXe siècle, mais qu'on pourrait faire remonter à toute la période qu'on appelle dans l'histoire de la littérature catalane celle de la décadence, c'est-à-dire celle de l'effacement petit à petit du catalan des usages les plus... de l'écrit, tout simplement, et des usages cultes à partir du XVIe siècle. Mmh. Depuis cette date, il y a toujours une défense de la langue catalane comme une langue, elle aussi, de culture, méritant des droits. Et au XIXe siècle, on va voir avec le mouvement de Renaissance... disons cette volonté de restaurer la langue dans son honneur et dans ses droits très forte, émergée très fortement en Catalogne.
Oui, premier extrait qui va nous être lu par Daniel Königsberg d'un texte justement de 1833. Stéphane Michonneau, c'est un texte de Bonaventura Carles Aribau, c'est ça ?
Oui.
Ça s'appelle L'ode à la patrie. On ne parle pas de nation, on parle de patrie catalane à ce moment-là, en 1830, et même peut-être beaucoup plus tard d'ailleurs. Ce n'est pas le terme de nation qui l'emporte tout de suite, c'est le terme de patrie, c'est cela ?
Oui, absolument. C'est assez typique de cette expression du double patriotisme entre le jeu de la construction de la nation espagnole et l'attachement à la patrie catalane.
Un extrait donc lu par Daniel Königsberg.
Adieu mes collines, pour toujours adieu. Ô chaînes inégales qui là-bas dans ma patrie se distinguaient de loin des nuages et du ciel, par leur repos éternel, par leur couleur plus bleue. Si, quand je me trouve seul, je parle à mon esprit, je lui parle en Limousin, il n'entend pas d'autre langue. Et ma bouche alors ne sait mentir ni ne ment, puisque mes raisonnements sortent du fond de mon cœur.
Nicolas Bergeron, ce texte d'Henri Baou, l'ode à la patrie de 1833, il faut peut-être l'expliquer. Pourquoi dit-il, si je lui parle en limousin, il n'entend pas d'autres langues? Qu'est-ce que ça signifie pour un catalan du début du 19e siècle?
Le texte d'Henri Baou est un texte important. Hein. Il est publié dans un journal du phare, disons, du romantisme barcelonais de l'époque, qui s'appelle El Vapor, et il sera ensuite inventé comme point de départ du mouvement de Renaissance, c'est-à-dire de récupération culturelle et linguistique catalane, dans lequel certains verront ensuite les principes, les germes du nationalisme catalan. C'est donc un texte, disons, qui sera inventé comme fondateur, et dont en fait... Ensuite, on a bien montré qu'il n'était pas du tout un texte nationaliste, hein, puisqu'il était une dédicace qu'Henri Baou a fait, qui était lui-même, qui travaillait à l'époque lui-même à Madrid, pour un banquier catalan installé là-bas, était un texte adressé à son patron. Ce qu'il faut souligner là-dedans, c'est l'attachement que les Catalans ont à la langue catalane, d'ores et déjà, qui est pour eux le fondement de leur identité. Et au début du 19e siècle, ils craignent, comme on voit la même chose dans le Midi de la France, par exemple, ils craignent de voir cette langue disparaître parce qu'elle n'est plus utilisée par les élites catalanes qui passent au castillan, qui est une langue qui leur paraît, disons, supérieure parce qu'elle est la langue de l'État. Et, disons, il y a une crainte hein, de voir cette langue déclassée, être abandonnée et perdue. Et donc, qu'un des piliers essentiels de l'identité catalane se perde en même temps, c'est ce qui motivera ensuite le mouvement de récupération linguistique.
Et d'ailleurs, Nicolas Bergeron, il faut préciser que donc les poètes, enfin, et à travers cette ode, on le perçoit bien, bon, revalorise cette langue catalane, mais que par ailleurs, la langue institutionnelle, effectivement, juridique, administrative, journalistique, intellectuelle, enfin, des universitaires, n'est pas du tout le catalan à ce moment-là, en tous les cas, ou peut-être Stéphane Michonneau. Ce premier tiers du 19e siècle.
Oui, on voit bien dans le texte cette dissociation entre la langue intime, qui est la langue catalane, la langue du cœur, et puis la langue officielle, la langue de la haute culture, entre guillemets, qui est le castillan et qui s'impose.
Et qui est celle des élites. Hein,
et qui est celle des élites, naturellement.
Et justement, à propos de cette langue, un extrait de Joan Cortada, donc, qui est un historien, un texte de 1860, lu par Daniel Königsberg.
Notre langue maternelle est le catalan. C'est la première langue que nous apprenons. C'est la seule dont nous fassions usage jusqu'à ce qu'on nous envoie à l'école. Et de ce point de vue, si pendant plusieurs heures du jour nous parlons, lisons, écrivons en castillan, pendant le reste de la journée, nous faisons tout le reste en catalan.
Alors, c'est très intéressant quand on vous lit, Stéphane Michonneau, de voir comment, en fait, il y a aussi des histoires de classe sociale autour de ces questions, de l'usage du catalan. Nicolas Bergeron nous disait tout à l'heure que les élites s'étaient mises au castillan, que le reste de la population pouvait parler catalan, qu'une peut-être une bourgeoisie intermédiaire parle le catalan, que l'industrialisation allait conduire aussi des ouvriers à parler le catalan et à revendiquer autour de la classe ouvrière une certaine vision, pourrait-on dire, du catalanisme. Il n'y a pas que une seule masse de la population qui s'adonne soit au castillan, soit au catalan, mais une grande variété dans les usages, pourrait-on dire, de cette langue et des références qu'elle porte, références culturelles, qui sont nécessaires à la construction de cette identité catalane. Stéphane Michonneau.
Vous avez raison d'insister là-dessus parce que on oublie souvent que ce grand courant culturel qui est monté en puissance à partir des années 1860, a un fondement populaire extrêmement important d'une population qui continue évidemment à parler le catalan. Et il y a un courant catalaniste populaire qui est à l'origine véritablement de la formation du catalanisme politique et qui, à cette époque, est totalement confondu avec les options du républicanisme fédéral, par exemple, dans les années 1860. Et qui, petit à petit, va se détacher de cette option républicaine fédérale après l'échec de la première république espagnole.
En 1880...
70.
70, voilà.
Et ensuite va se détacher petit à petit pour former un courant catalaniste politique propre, réclamant un État catalan et une forme d'autonomie politique.
Parce que ce qu'il faut préciser aussi, Stéphane Michelot, c'est que le Barcelone, entre autres, va vivre une révolution industrielle accélérée. C'est-à-dire que, on l'appelle un peu la Manchester... espagnol, et que donc du coup, évidemment, qui dit révolution industrielle dit aussi classe ouvrière. Alors vous parliez de classe populaire, mais aussi classe ouvrière face à une classe moyenne et une aristocratie qui, et sans arrêt, il va y avoir ce mouvement justement de valorisation, dévalorisation, de réappropriation du catalanisme par ces différentes classes, pour prendre les unes les autres le pouvoir, en fait, hein, d'une certaine manière. Parce que cette classe ouvrière, elle va revendiquer aussi des choses, et d'une certaine manière, le catalanisme va être un moyen aussi de la maintenir socialement.
Très certainement, évidemment. Ça, c'est l'une des fonctions premières du nationalisme, c'est d'essayer de réconcilier une société extraordinairement conflictuelle, puisque elle est animée de mouvements ouvriéristes extraordinairement puissants. Ces mouvements ouvriers ne s'expriment pas nécessairement en catalan. Ce sont des populations qui viennent du nord-est de l'Espagne, beaucoup d'Aragon, et qui peuplent les usines de Catalogne. Elles ne sont pas nécessairement familières avec la culture locale, et elles resteront en marge du mouvement nationaliste très longtemps. Il faut vraiment attendre le début des années 10, mais plutôt l'entre-deux-guerres, enfin ce qui serait notre entre-deux-guerres, les années 20 et les années 30, pour voir la classe ouvrière intégrer et s'intégrer littéralement au mouvement catalaniste. Pas avant. Avant, c'est principalement un mouvement des élites et des classes moyennes.
Et ce mouvement des élites et des classes moyennes n'a pas, comme vous l'avez dit au tout début de notre entretien, Stéphane Michelot, l'intention de séparer la Catalogne du reste de l'Espagne. Ce n'est pas du tout son intention au départ. C'est une intention assez difficile à comprendre, d'ailleurs, de reviviscence, pourrait-on dire, des modes culturels et d'une langue, etc., etc., et des traditions, la danse, la musique, les choses comme ça qui vont avec. Et de l'autre côté, d'attachement à cet État espagnol en développement, c'est bien ça ?
Alors non seulement elle n'en a pas l'intention, mais elle a exactement l'intention inverse. Et en fait, en vérité, on comprend bien ce que les catalanistes pensent quand on se réfère au contexte, c'est le contexte de la construction de l'Italie et de l'Allemagne hein, dans les années 60-70. Et les Catalans se pensent comme la locomotive de l'Espagne, le lieu le plus moderne, le plus ouvert, culturellement, industriellement, naturellement.
Une Espagne qui serait, à leurs yeux, trop rurale, trop ancienne, trop ancrée dans ses traditions lointaines.
Arriérée, disons, carrément. Ouais. Et donc, se pensant comme la locomotive politique, industrielle et culturelle du pays, ils pensent conduire un mouvement de réunification de la péninsule autour de leurs idées politiques, comme les Prussiens l'ont fait en Allemagne, comme les Piémontais l'ont fait en Italie. Simplement, à la différence des Piémontais et des Prussiens, cela échoue.
Nicolas Bergeron, sur cette ambition, pourrait-on dire, des Catalans de la deuxième moitié du 19e siècle à prendre la tête, pourrait-on dire, de cet État espagnol, s'il se modernisait ?
Cette ambition, en fait, elle trouve racine dans le double patriotisme qu'a évoqué Stéphane Michonneau de la première moitié du 19e siècle. Elle en est le prolongement. Il y a, dans le catalanisme politique, tel qu'il va naître après l'échec, effectivement, de la première république espagnole, une double ambition. Ce qui est exprimé notamment dans les textes de Prat de la Riba, le premier théoricien du nationalisme catalan, en quelque sorte, l'un des leaders de ce nationalisme catalan conservateur. Une double ambition de construire, d'une part, une Catalogne qui soit une société cohérente, alors qu'elle est traversée par des tensions sociales que le reste de l'Espagne peut-être ne connaît pas à ce degré, autour d'une culture partagée qui serait la culture catalane, et notamment de la langue catalane, et d'institutions qui seraient propres à la Catalogne. Ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a toujours dans le catalanisme, même lorsqu'il accepte l'ibérisme, en quelque sorte, la volonté que la Catalogne soit reconnue par des institutions qui lui soient propres. Et puis, d'autre part, une participation, effectivement, à la modernisation de l'Espagne, participation dans le jeu politique espagnol comme force autonome qui, effectivement, impulserait, hein, c'est la thèse d'Enrique Ucela y Dacal, de l'impérialisme catalan, impulserait depuis la Catalogne une modernisation générale du pays, ce à quoi les élites catalanes pourraient évidemment légitimement prétendre, puisqu'elles sont, disons, les élites européennes, en fait, les élites industrielles de l'Espagne tout entière.
C'est vrai, Niata.
Et juste Nicolas Bergeon ou Stéphane Michonneau, la question religieuse, qui est aussi importante, alors la question du catholicisme, la question des ecclésiastiques dans ce jeu, justement, d'identité catalane, et comment peut-être les élites se lient ou non avec...
L'Église.
Avec l'Église.
Stéphane Michonneau.
Avant d'en arriver à...
Nicolas Bergeron pourrait parfaitement... il me reprendra. Ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu des années 80...
1880.
Lorsque se forme ce message modernisateur et industrialiste de l'Espagne que défendent les élites catalanes, à ce moment-là, on voit parfaitement comment l'ancien carlisme rejoint ce mouvement catalaniste et comment l'Église catalane s'accroche en quelque sorte à ce message. Et le catalanisme est aussi un héritier du carlisme. Et donc il n'y a pas de mouvement
carliste, il faut peut-être le rappeler pour le mouvement du début du 19e en particulier qui a été très fort dans le début du 19e.
Alors il a été très puissant puisqu'il y a eu en Catalogne 3 guerres civiles successives et c'est un mouvement légitimiste qui naît dans les années 20 du 19e siècle. Alors l'évêque Torras y Bages en particulier est le symbole de cette intégration de l'église catalane au nationalisme catalan. Ce qui lui donne un tour très conservateur. Hein. Un homme comme Gaudi, par exemple, professe un catholicisme extraordinairement conservateur et intégraliste.
Nicolas Bergeron.
Oui, non, c'est tout à fait juste. Hein. Donc, il y a dans la seconde moitié du 19e siècle, un courant qui est à la fois culturel et politique, qu'on appelle bigatanisme, dont la capitale serait la ville épiscopale de Vic, hein, qui a donné un certain nombre de poètes catalans fameux, comme Jacint Verdaguer, ou de théoriciens du catholicisme, disons, catholique, comme Torras i Bages. Et ce bigatanisme, à la fin du 19e siècle, se fond, en quelque sorte, dans le catholicisme dans le catalanisme conservateur, dans le nationalisme catalan conservateur. Mais finalement, lui aussi n'en est pas si éloigné théoriquement des son principe, puisque ce qu'il postule, c'est une Catalogne chrétienne, alors là, effectivement, assise autour de sa culture chrétienne et de sa langue.
Et c'est là où Saint Jordi prend une importance, Saint Georges prend une importance, c'est là où la Vierge de Montserrat prend également de l'importance, Nicolas Bergeron.
Alors effectivement, ce sont ces secteurs qui ont notamment beaucoup fait pour la réédification, la restauration d'un certain nombre de lieux emblématiques du catholicisme et du nationalisme catalan, comme le monastère de Montserrat, comme l'abbaye de Ripoll, et qui seront imités, du reste, en Roussillon, par exemple, au début du XIXe siècle, par l'évêque de Perpignan, qui lui aussi voudra restaurer des lieux de mémoire, en quelque sorte, mais même mieux que ça, des lieux d'irradiation d'un catholicisme qui serait catalaniste.
Alors, un nouveau texte va nous être lu par Daniel Königsberg. Il s'agit d'un texte de Narciso Roca à propos du monument à Lopez. C'est une contestation d'un monument. C'est quoi ce monument à Lopez dont parle Narciso Roca en 1884, Stéphane Michonneau?
Ah oui, c'est un monument un petit peu particulier qui existe toujours et qui a toujours été l'objet de beaucoup de contestations parce que Lopez était un grand armateur, fondateur de la compagnie maritime, fondateur il était propriétaire des tabacs, etc. Et aussi grand propriétaire des Philippines. Et donc ce monsieur est un ancien esclavagiste en vérité. Alors c'est une des grandes figures de la bourgeoisie catalane de la fin du 19e siècle. Et une statue lui a été érigée, mais à cause de son passé esclavagiste, cette statue a toujours été l'objet d'énormément de tensions et de revendications de la part de la gauche.
Le monument à l'opulence, donc un texte signé Narciso Roca de 1884 qui nous est lu par Daniel Königsberg.
C'est une véritable honte pour la ville que ce monument érigé au dieu de l'argent, au génie marchand, à l'opulence bancaire, au négoce chanceux et à la spéculation millionnaire, alors que les monuments prévus en l'honneur des poètes et des chanteurs de la patrie catalane, comme Aribau ou Clavé, n'ont même pas deux pierres l'une au-dessus de l'autre. Alors qu'on ne parle même plus du monument élevé aux défenseurs de l'indépendance de la Catalogne, au député Clarisse, ni du monument destiné à garder les restes du chef de l'indépendance espagnole dans le Principat, le général Lassie, alors que pour faire avancer, avec une lenteur incroyable, les travaux des monuments au génie qui découvrit les Amériques, où s'enrichit tant de Catalans, Barcelone a besoin de quémander de l'argent auprès des provinces et des villes de l'Espagne castillane, tellement appauvries et désolées par la possession du Nouveau Monde.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Et dans une semaine de la fabrique de l'histoire consacrée aux indépendantismes, nous traitons aujourd'hui de la fabrique de l'identité catalane avec Stéphane Michonneau et Nicolas Berjouan, tous deux historiens. Séverine Yatard.
Oui, là, c'est aussi une critique, il faut remettre peut-être en contexte, parce que là, Barcelone est en train de vivre aussi un peu une crise économique, et donc c'est aussi une critique faite à ce monument de l'opulence qui, d'une certaine manière, dépenserait aussi l'argent, un argent qui n'est pas nécessaire. Plus aussi, je crois, Stéphane Michonneau, une critique d'une aristocratisation un petit peu de la haute bourgeoisie à ce moment-là.
Ah oui, parce que à Barcelone domine une élite bourgeoise. Il n'y a pas une domination très claire de l'aristocratie comme dans le reste de l'Espagne. C'est une élite bourgeoise qui s'aristocratise et dont la population est très critique par rapport à ce mouvement-là. Mais enfin, les choses sont un peu plus complexes parce que López a marié son fils avec la fille du comte Güell, qui est aussi une des grandes familles industrielles du textile catalan.
Le fameux palais Güell, en l'occurrence.
Voilà, et le palais Güell, c'est le mécène de Gaudi. Donc dire que cette grande bourgeoisie catalane est hostile aux expressions culturelles du catalanisme de l'époque, c'est tout à fait faux. Mmh. Et Luther devait le savoir.
C'est d'ailleurs très, très étonnant cela, Nicolas Berjouan, c'est-à-dire ce discours qui va se construire tout au long du 19e et du 20e siècle. Vous nous avez expliqué avec Stéphane Michonneau combien effectivement ce catalanisme ne pouvait pas s'imaginer sans l'ancrage avec l'État espagnol. Et cette façon dont on va reconstruire progressivement cette mémoire du catalanisme comme étant une mémoire dissidente, une mémoire de la rupture avec l'État espagnol, ça n'est pas si évident que ça pendant de très nombreuses années, Nicolas Berjouan.
Je ne sais pas s'il faut poser la question dans ces termes-là, parce que le double patriotisme, effectivement, ne postule pas de rupture avec l'Espagne. Cela dit, il ne faut pas oublier qu'on peut le lire dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il est aussi, toujours, dans l'Espagne, une revendication de reconnaissance d'une identité particulière. Voilà. Et effectivement, il y a une acceptation de l'État national espagnol, une volonté de participer, mais toujours assortie, comme je vous l'ai dit, de ce regret d'institutions qui ont été perdues, de cette réclamation d'une modernisation de l'État espagnol à la catalane, et dans ce cadre-là, de la reconnaissance d'une communauté qui a gardé la conscience de soi, tout de même, et fortement, et qui se sent en quelque part menacée dans cette conscience-là et qui demande à ce qu'elle soit reconnue de manière institutionnelle. Le double patriotisme est vraiment ambivalent et équilibré, j'ai envie de dire, en Catalogne.
Ouais. Vous citiez tout à l'heure le nom d'Enric Prat de la Riba. Il est important, ce Prat de la Riba, en 1906 en particulier, Stéphane Michonneau, à cause de son livre qui s'appelle La Nationalitat Catalana, je crois, qui nous dit effectivement qu'on peut imaginer une sorte d'autonomie catalane au sein de cet État espagnol, sous le chapiteau, dites-vous, commun de l'État espagnol. C'est un texte important parce qu'il va marquer une césure, pourrait-on dire, dans l'histoire de l'identité catalane.
Oui, c'est un texte très important parce que, d'une certaine manière, il marque... c'est l'époque où on passerait d'un régionalisme à l'affirmation d'un nationalisme, ce qui est vraiment tout à fait différent, naturellement. Et ce passage n'est pas du tout évident. Beaucoup d'autres régions d'Espagne professaient des formes de régionalisme et continuent à les professer sans que ce se soit transformé en des formes de nationalisme.
Qu'est-ce qui se passe alors?
Ce qui se passe, c'est la grande crise de l'État espagnol des années 1898,
donc la
perte de l'Empire
de Cuba et des Philippines.
De Puerto Rico, un questionnement fondamental à ce moment-là, et des courants qu'on appelle des courants régénérationnistes et qui cherchent à trouver des solutions pour combattre ce qu'ils interprètent comme étant dans une forme de décadence de l'Espagne, à l'époque où toutes les nations se constituent des empires coloniaux.
Puisque l'Espagne n'est plus un espoir, pourrait-on dire, pour les Catalans, c'est-à-dire que cette rénovation de l'État espagnol ne semble plus possible parce que les élites espagnoles ont failli, d'une certaine façon, il va falloir prendre son destin en main, c'est cela.
Donc on change de cheval.
Oui.
C'est-à-dire qu'on ne change pas nécessairement les objectifs. Les objectifs, c'est, comme l'a dit Nicolas Verjoine, l'industrialisme, la construction d'une Espagne respectant des formes d'autonomie politique, un catholicisme dur, impérialisme, etc. Mais on va construire un État propre pour défendre ses idées, puisque l'État espagnol s'est révélé incapable de les porter. Alors, le texte de Prat de la Riba, c'est ça, et ce tournant, 1906, et c'est le moment où il affirme l'existence d'une nation politique catalane, à l'intérieur d'un tout qu'il appellera l'État espagnol, qui serait un État composite. Donc on arrive à une formulation...
Parce qu'il y a d'autres nations, basque, etc. Voilà. etc.
1895, c'est la naissance du Parti Nationaliste Basque aussi, donc on s'achemine petit à petit vers l'idée d'un État espagnol qui serait composé de nations, nations basques, castillanes, catalanes, etc.
C'est vrai, Niata.
Il faut dire aussi que ce Prat de la Riba, il entraîne avec lui aussi de nouvelles classes sociales, enfin plutôt des classes profession libérale, intellectuel. Donc c'est le tournoi aussi, il est suscité, provoqué par peut-être un changement des populations différentes qui vont se rallier à cette cause. Enfin, en tous les cas, la théoriser aussi différemment.
Il la théorise et il est le grand représentant d'un catalanisme très conservateur qui est né à la fin des années 90 et qui recrute très largement dans le secteur nationaliste bourgeois et de la haute bourgeoisie catalane. Donc là, il y a ensuite une hégémonie conservatrice qui se prolonge jusqu'à la fin des années 20, effectivement.
Qui est Manuel de Montoliu, dans El Poble Català, écrit en décembre 1906 contre l'excès d'hommage rendu aux écrivains de la Renascença? Est-ce que vous le connaissez, ce Manuel de Montoliu, Nicolas Berjoine?
Un écrivain et philologue et linguiste connu de la Catalogne de l'époque, assez proche parfois, oui, du catalanisme conservateur. Mais si je peux juste rebondir sur ce qui a été dit, je pense que vous avez dit quelque chose tous ensemble d'extrêmement juste et pertinent. En fait, il faut toujours comprendre la relation de la politique catalane et les évolutions de la politique catalane et parfois l'émergence de l'indépendantisme catalan en corrélation avec ce qui se passe en Espagne. Effectivement, il y a une crise de l'Espagne, du projet espagnol à la fin du 19e siècle. Un affaiblissement de ce projet national, et en même temps il y a en Catalogne, qui est une société socialement différente, qui s'industrialise, où apparaissent des classes moyennes nombreuses, il y a la naissance d'un catalanisme nouveau, d'un nationalisme qui va que ces classes moyennes aussi, hein, pas seulement les élites tout de même, hein, vont embrasser comme possibilité éventuellement pour trouver une place dans une administration autonomique ensuite quand sera créée la Mancomunitat, mais aussi comme espace de projection politique. Mmh. Il y a là l'effet, si vous voulez, d'une crise du projet général et d'évolution interne à la société catalane qui est légèrement, qui diverge en quelque sorte de la société du reste de l'Espagne.
Manuel de Montoliu contre l'excès d'hommage rendu aux écrivains de la Renascença, Daniel Königsberg.
Ce qui est certain, c'est que nous nous retrouvons dans le pire des états pour juger correctement les figures et les œuvres de notre littérature. Et ceci non seulement parce que nous sommes encore trop proches d'elle pour pouvoir apprécier la véritable place qu'elle occupe par rapport à celle d'autres peuples et d'autres époques, mais aussi et principalement à cause de l'état d'excitation morale dans laquelle nous met la sainte cause de la liberté de notre peuple, état qui fait de nous un peuple d'hallucinés, qui voit tout hors de proportion en soumettant tout à une fin obsédante, comme une idée fixe. Que cesse, avec l'inauguration du monument à Pitarà, l'ère de confusion et d'égarement produite par l'application prédominante du critère patriotique au jugement des œuvres de notre littérature. Thank you.
voix critique, celle de Manuel de Montoliu, qui dirige ce journal Poble Catalan, et qui s'attaque d'une certaine façon, en tant que plutôt avant-gardiste, à cette ce qu'on appelle le noucentisme. C'est quoi le noucentisme, en l'occurrence, et à quelle place ça prend dans ce mouvement, justement, culturel catalan, Stéphane Michonneau?
Alors, le noucentisme, c'est un mouvement culturel qui est né en 1906, et qui est un véritable, on pourrait le définir comme un mouvement de nationalisation de la culture catalane, en vérité, un mouvement très profond, qui va se prolonger largement jusqu'à la fin des années 30. Alors Montoliu est très critique vis-à-vis de cela, mais il sera totalement emporté par cette vague de nationalisation culturelle. Une autre chose qui est intéressante, c'est qu'il écrit dans un journal, Le Peuple Catalan, qui est un journal qui est important parce que c'est un journal de gauche, et c'est un journal qui marque, qui est très caractéristique de la naissance d'un catalanisme de gauche.
Oui,
un catalanisme populaire qui sera ensuite hégémonique dans les années 30, mais qui à l'époque est tout petit. Donc la gauche catalane est divisée en deux. Il y a une gauche espagnoliste, disons, majoritaire, mm-hmm. et puis il y a un secteur nationaliste, ce qui montre que le catalanisme a, dès le départ, un spectre très large. Il est de gauche, il est de droite, il est du centre. Chose que n'aura jamais le nationalisme basque, par exemple, qui s'identifie seulement à un parti.
Oui, c'est quand même très intéressant, Nicolas Berjoine, de voir effectivement comment ce troc se fait d'un mouvement né plutôt conservateur et très catholique, tel que vous nous l'avez décrit au XIXe siècle, comment progressivement eh bien, d'autres classes sociales, d'autres mouvements politiques s'emparent de cet étendard catalan pour pouvoir... la faire sienne, ce drapeau catalan, le faire sien, et ses traditions catalanes, le faire sien à gauche. C'est quand même très étonnant, ça, Nicolas Bergeron.
En fait, ce qui se passe, c'est un produit de l'évolution, donc de la politique espagnole et catalane, entre le début du siècle et les années 20, disons, qui se cristallise autour de la Première Guerre mondiale, notamment, dans lequel, finalement, le projet de restauration politique en Espagne échoue. Et la Lliga Regionalista, donc, qui était le parti qui représentait ce nationalisme conservateur, catalan conservateur, était plus ou moins associé, s'était associé à ce projet-là, espérait trouver une place pour la Catalogne dans ce projet-là, chose qu'elle avait fait d'une certaine manière en obtenant des institutions, ou disons, la des institutions, des proto-institutions que serait la Mancomunitat de Catalogne en 1914. Ce projet échoue et le relais est pris par des partis qui sont eux aussi nationalistes, mais de gauche, effectivement, qui vont professer a priori un nationalisme plus radical d'ailleurs, hein, et qui seront souvent plus proches de l'indépendantisme que ne pouvait être le nationalisme conservateur, qui avait peur tout de même des troubles sociaux et qui voyait dans la monarchie espagnole un instrument pour sauver la paix sociale en Catalogne aussi.
Oui, ça c'est extrêmement intéressant, puisque l'Espagne ne participe pas à la Première Guerre mondiale, Stéphane Michonneau, mais qu'une partie de cette population espagnole, et en particulier la population de gauche, va se dire, tout compte fait, ce qui sort de cette Première Guerre mondiale, c'est la politique des nationalités, c'est la politique wilsonienne, pourrait-on dire. Pourquoi ne pourrait-on pas en profiter pour, bien que n'ayant pas participé à cette destruction des empires, au bout du compte, prendre nous aussi notre autonomie, voire notre indépendance?
Alors, 1915-1916, c'est vraiment le moment où il y a la première apparition, véritablement, d'un mouvement indépendantiste autour des idées que vous dites. C'est-à-dire, on va profiter des règlements du traité de Versailles pour essayer d'imposer la Catalogne et l'indépendance de la Catalogne, comme en Europe de l'Est. Alors, on se sert d'un argument, c'est qu'il y a un certain nombre de Catalans qui se sont enrôlés volontairement dans l'armée française. Et donc, on essaye de monnayer cet engagement des volontaires catalans, dont on dit qu'ils sont 10 000. En fait, ils sont 550, mais bon, peu importe.
c'est selon la police et selon les manifestants,
voilà. C'est ça. C'est d'utile. Voilà. L'essentiel, c'est que, né à cette époque-là, un mouvement indépendant, des commémorations particulières, qui ne sont pas celles du nationalisme traditionnel, et à la faveur de la dictature à partir de 23, ces mouvements indépendantistes vont prendre beaucoup de force et vont s'enraciner beaucoup plus profondément dans la population, faisant du catalanisme désormais quelque chose qui est en tension entre une aile majoritaire autonomiste et une aile minoritaire indépendantiste.
Oui, c'est ça que cette dictature va populariser finalement, vous dites, les thèmes catalanistes, elle a un rôle important finalement dans le fait que cette idéologie va prendre de l'ampleur.
Ah, c'est un rôle fondamental parce que c'est véritablement dans les années 20 qu'une partie de la classe ouvrière commence à véritablement entrer dans le catalanisme. Donc, il y a un catalanisme socialiste à ce moment-là qui se crée à partir de entre 1916 et 1923. Et puis
et qui rejoint alors peut-être les problématiques de liberté originelle
du
début du 19e.
Bien sûr. Et puis aussi un mouvement insurrectionnaliste, de conspiration autour de Francesc Macià, de l'Estat català, qui va même tenter des tentatives de... Il va y avoir une tentative de coup d'État en 26. Et là, une première assemblée du séparatisme convoquée à la Havane en 1928.
Alors, vous nous avez fourni, Nicolas Bergeon, et vous avez traduit un texte qui s'intitule « Les tombes enflammées », qui date justement de 1923 et de cette année néfaste de la prise de pouvoir dans la dictature dans l'Espagne de l'époque. Il est signé Ventura Gassol. C'est quoi ce texte exactement que va nous lire Daniel Königsberg, Nicolas Bergeon?
C'est un texte patriotique qui est écrit par un poète qui est proche de Macià, qui sera son secrétaire et son bras droit, et ensuite son conseiller de la culture quand sera restaurée, entre guillemets, la généralité de Catalogne sous la Deuxième République espagnole, et qui était à l'époque extrêmement populaire. Mais si je peux rajouter une chose avant que vous lisiez.
Bien sûr.
Effectivement, on retrouve cette dialectique entre l'évolution du catalanisme, finalement, et l'évolution de la politique espagnole. L'émergence de la Renaissance et sans doute sa politisation est due à des circonstances qui sont la perte de poids du projet espagnol. Et puis, sous la Première Guerre mondiale, là encore, au moment où le projet politique espagnol de restauration s'effondre, s'enfonce, on voit ressurgir un catalanisme encore plus à gauche. Et puis, il y a cette importance aussi de la répression qui est faite sur cette région particulière et sur ses formes politiques, dans les années 1840, mais aussi sous la dictature de Primo de Rivera et ensuite sous Franco, qui feront beaucoup, bien entendu, pour populariser les slogans du nationalisme catalan et son idéal.
La répression de la langue en particulier, la répression
des traditions. Extrêmement hostile.
Oui, la répression de la langue en particulier. On écoute ce texte, Les tombes enflammées, donc de Ventura Gassol de 1923, lu par Daniel Königsberg.
Ce fut une patrie. Elle mourut si belle que jamais personne n'osa l'enterrer. Au-dessus de chaque tombe, le rayon d'une étoile. Sous chaque étoile, un catalan. Elle dormait si près de la mer, de ce sommeil si doux de la mort, que les sirènes, jour et nuit, entendaient comme elle lui ranimait le cœur. Un jour, ce fit une clarté d'aube, et du fond de la tombe la plus glacée, une voix naissante frémit du chant des chants. Feu nouveau, descend du ciel et recommence à brûler. L'heure a sonné de réveiller la cendre. Ô, patrie des tombes enflammées.
Les tombes enflammées, un poème de Ventura Gassol qui date de 1923. On voit bien effectivement cette idée de la Renaissance, d'une patrie qui a du mal à renaître et qui est à chaque fois mise sous le boisseau. Stéphane Michelot, c'est important cette idée qu'il y a la flamme qui est toujours là, prête à renaître et prête à faire redémarrer ce nationalisme catalan.
Oui, c'est... C'est un beau texte, je trouve, en plus accompagné de l'hymne national catalan. Vous avez fait les choses bien.
C'est Vrigny Cassar qui a réalisé cette émission et qui a bien choisi effectivement cette musique en dessous de ce texte. C'est Segadors, c'est ça?
Oui, Segadors. Ce qui est important, comme l'a dit Nicolas Bergeon, c'est que cette période dictatoriale et cette période de la première dictature de Primo, dictature militaire de 23-30, fait que la lutte pour le catalanisme s'identifie avec la lutte pour la démocratie. Et ça, c'est une caractéristique que le catalanisme gardera et qui renaîtra très très fortement à la fin des années 60. Donc ça, c'est intéressant parce que jusqu'à présent, le catalanisme n'était pas nécessairement l'expression d'une voie politique démocratique, même plutôt pas vraiment.
Pas vraiment.
Alors,
en
oui.
partie ici, mais ouais. pas complètement en tout cas.
D'ailleurs, un des leaders, évidemment, c'est Francesco Mazzia. Mazzia, dont on va entendre la voix, parce que Nicolas Bergeron nous a donné une référence pour écouter effectivement sa voix. Et ce Francesco Mazzia va d'ailleurs faire appel, je crois, à Moscou pour justement contrer Primo de Rivera. Il fait appel aux communistes, d'une certaine manière, en soutien.
Oui, il est à l'origine de la formation d'un mouvement insurrectionnel. Alors, au départ, c'est un mouvement insurrectionnaliste qui s'appelle l'État catalan et qui va essayer de tenter une insurrection armée à la frontière, à Prats de Molló, en 1926, laquelle sera échoue. Mais par contre, il y aura un procès et ce procès va être un petit peu la tribune dont se servira Francesc Macià pour coaguler autour de lui tout le catalanisme de gauche autour d'un grand parti qui plus tard sera ERC en mars 1931, Esquerra Republicana de Catalunya.
On écoute la voix de Francesc Macià. En 1931.
Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. D'acord amb el president de la República Federal Espanyola, senyor Niceta Alcalá Zamora, pel qual hem ratificat els acords presos en el Pacte de Sant Sebastià, em faig càrrec provisionalment de les funcions de president del govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat.
On voit bien, Nicolas Bergeron, dans cette allocution de 1931, qu'on parle à la fois de peuple catalan, mais aussi de fédération espagnole. Il y a l'espoir pour Francesc Macià, un espoir déçu, de pouvoir faire une véritable république catalane, un véritable État catalan séparé du reste. Et effectivement, on ne lui concédera au bout du compte, dans ce moment de la chute de la dictature de Primo de Rivera, on ne lui concédera qu'au bout du compte, dans cette seconde république, qu'une generalitat, donc une sorte d'autonomie interne au sein de cette nouvelle république espagnole du début des années 30. C'est cela, Nicolas Bergeron?
Oui, le texte et son contexte mériteraient une explication un peu longue que je ne ferai pas. Nous n'avons pas le temps, mais simplement, je voudrais insister encore une fois sur le fait que le discours de Macià, vous le voyez, reprend encore une fois cette sorte d'antienne qui a été longuement, presque jusqu'à nos jours, hein, et qui aujourd'hui est peut-être en train de se perdre pour un indépendantisme plus décidé, cette espèce d'antienne de l'articulation possible dans une fédération ibérique d'une Catalogne qui serait reconnue dans sa nationalité par un État, associé à d'autres États ibériques et notamment associé à une Espagne qui serait fédérale. Je crois que pendant longtemps, ça a été l'ambition du nationalisme catalan, sinon depuis son principe.
Mmh. Stéphane Michonneau, pour créer un État, il faut des symboles. Les symboles sont les mêmes pour tous les nationalistes catalans des années 30, par exemple, la Senyera, le fameux drapeau rouge et or, la Sardane, les Segadors, dont on a entendu un morceau tout à l'heure, ou les Castellers, par exemple, tout cela, c'est partagé par tout le monde, ou est-ce que chacun récupère une partie de ces symboles comme étant partie de l'identité catalane qu'on est en train de construire, ou les saints, Sant Jordi, ou encore la Vierge de Montserrat?
Disons que dans les grandes lignes, on s'entend sur les symboles fondamentaux, comme avec le Can de la Chaniera, par exemple, mais évidemment, comme toutes ces affaires mémorielles, c'est extrêmement conflictuel. Par exemple, pour le drapeau, il existe le drapeau de la Chaniera, qui est le drapeau officiel, défendu par le catalanisme traditionnel, mais les indépendantistes ont un drapeau particulier qui est né à Cuba, au début du 19e siècle, et qui comporte un triangle bleu avec une étoile blanche, et qui est la copie du drapeau cubain, en vérité. Mmh. Et ce drapeau est utilisé parmi les Catalans de Paris, qui ont fondé en 1906 un comité plus ou moins indépendantiste à cette époque-là. C'est le drapeau qui, aujourd'hui, d'ailleurs, est utilisé dans les mouvements indépendantistes. Alors, voilà, il y a des petites variations symboliques. Voilà, donc le catalanisme conservateur va plutôt se retrouver autour de Rafael Casanova, qui est la grande figure du siège de 1714, alors que le catalanisme plus indépendantiste va se retrouver autour de la figure de Pau Claris, premier président de la Généralité après le Corpus de Sang de 1640. Il y a des nuances.
Oui, sur ce point, Nicolas Bergeon, vous qui avez travaillé sur la différence, on n'a pas le temps de l'évoquer ici, entre catalanisme du nord des Pyrénées et catalanisme du sud des Pyrénées, on voit bien qu'effectivement, tout le monde ne s'entend pas sur tous les symboles, en l'occurrence, Nicolas Bergeon.
Oui, alors de part et d'autre des Pyrénées, effectivement, du fait de trajectoires nationales et sociales différentes des territoires, il y a des variantes importantes, encore que on se retrouve, comme l'a dit Stéphane Michonneau, aussi de part et d'autre des Pyrénées, sur un certain nombre de symboles qui paraissent caractéristiques de l'identité locale. Pour vous donner l'exemple d'une divergence, par exemple, le nationalisme catalan en Espagne a fait du 11 septembre, donc date de la chute de Barcelone en 1714, qui annonçait donc les décrets de Nova Planta dont je vous ai parlé et l'abolition des institutions locales, ouais, a fait de cette date la Diada nationale de Catalogne. C'est durant celle-là qu'on manifeste massivement en ce moment, peut-être parfois pour l'indépendance, alors que cette date n'a jamais pu prendre en Roussillon, où le mouvement catalaniste a eu du mal à faire émerger une date propre et à essayer d'imposer le 7 novembre, date du traité des Pyrénées et de la partition de la Catalogne Nord et de la Catalogne du Sud, disons, l'une au profit de la monarchie française, l'autre espagnole, par le traité des Pyrénées.
Merci à tous les deux, merci à vous Nicolas Bergeon, dont on aura intérêt à lire si on veut comprendre justement ce qu'est cette identité du Roussillon, puisque c'est le titre de cet ouvrage paru chez Trabucaire, donc Penser un pays catalan à l'âge des nations entre 1780 et 2000, c'était issu de votre thèse, donc on aura intérêt à la lire pour comprendre justement cette différence roussillonnaise, pourrait-on dire, de l'identité catalane du nord des Pyrénées. Et puis pour vous Stéphane Michonneau, eh bien lire Barcelone, mémoire et identité, là aussi issu de votre thèse, qu'on peut trouver aux presses universitaires de Rennes et qui court de 1830 à 1930. Justement, on s'est arrêté aux portes de la Seconde Guerre mondiale et surtout de la guerre civile espagnole. On ne pouvait pas aller beaucoup plus loin que là où nous sommes allés, mais ça nous a permis de comprendre, justement, grâce à vous deux, les racines, le 19e siècle en particulier, de cette fabrique de l'identité catalane. Merci à vous, Sérignata. On se retrouve demain. On va parler d'Espagne, là aussi, et de colonies espagnoles, en l'occurrence, en traitant de tout ce qui tourne autour du bolivarisme et de ces volontés indépendantistes qui parviendront à secouer le joug espagnol, donc des pays d'Amérique latine au 19e siècle.
La rumba de Catalunya es nostra y de ningú més. Ay, la rumba de Catalunya es nostra y de ningú més. I és de tots els catalans, és nostra, guarda la clau, i és de tots els catalans, és nostra, guarda la clau. Jo sóc el que canto rumba, 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 sí.
On va se mettre à danser dans le studio, vous inquiétez pas, on est tout prêt pour pouvoir fêter la fin de cette émission. Marie-Vonne et Olivier, Aurélie Marcet ont préparé cette émission. Emmanuel Morse-Nacan était avec nous à la technique aujourd'hui et Séverine Cassard à la réalisation. Vous pouvez bien entendu, pour avoir plus de renseignements, vous rendre sur le site internet tout nouveau, tout beau de France Culture à la page de la Fabrique de l'Histoire d'aujourd'hui. Vous pouvez également télécharger facilement cette émission pendant toute la durée que vous souhaitez et puis également l'écouter aussi longtemps que vous le voulez sur le site internet. N'hésitez pas à y aller, ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.